Salut les marques, salut Smart, salut peuple de catch-up. Bienvenue dans votre podcast qui suinte, qui dégouline, qui transpire le catch. Chaque semaine, nous analysons, décryptons, décortiquons, encensons et parfois démolissons, mais c'est rare quand même, hein, les shows de la WWE. Je suis votre dinosaure, que dis-je, suis votre luchasaurus des podcasts, c'est difficile, ça fait un peu botché ça, le podcatch. Je suis votre tonton Chris, je suis accompagné pour faire une tag team, hein, on va dire un peu ancienne, un peu solide sur les appuis, prête à aller au mastic, qui a quand même un peu de l'expérience, puisque je suis accompagné de l'expérimenté, de l'indestructible, de l'inamovible, du papy. Comment ça va papy?
Bonjour les petits enfants, bonjour tonton, oui on y revient au mastic, on va aller on les lancer comme des frelons, on va aller péter des gueules.
Oh oui, oh oui, au moins ça je pense. Alors là tu es prêt pour intégrer le monde merveilleux du show bleu, le SmackDown?
Je suis prêt là, je suis en pleine forme, prêt pour en plus un go home show là, donc c'est chaud, c'est chaud.
Ouais, le 1105e Friday Night SmackDown, qui va nous emmener effectivement vers le Hell in a Cell 2020 qui va se dérouler dimanche. Alors, on a une carte, alors tu me diras, on va faire les pronos à la fin pour nos amis du peuple de catch-up. Et du coup, je crois qu'il n'y a que 5 matchs à la carte.
Tout à fait, à date, il n'y a toujours que 5 matchs. Alors, je pense qu'on aura du truc à l'arrache qui va arriver, notamment dans le pré-show. Mais pour l'instant, on n'est qu'à 5 matchs. Deux de chaque et un intervendeur.
Voilà, donc on va rentrer dans ce SmackDown qui est donc le go-home de ce Hell in a Cell. Et ça va commencer directement avec notre ami Kevin Owens. Alors, ça fait plaisir Kevin Owens de le voir lancer un peu, débuter SmackDown, quoi, où il va présenter son premier KO show. Et voilà, ça va commencer fort puisqu'il va inviter l'homme du peuple, il va inviter Daniel Bryan, l'American Dragon, quoi. Et voilà, il va y avoir tout un peu de remerciement, de cette remercier, de s'être considéré la semaine dernière dans le discours de retour. C'est beau, quoi. On sent l'entente, on sent. Alors là, les Indie Darlings sont là, hein. Sami Zayn, Kevin Owens, Daniel Bryan, tout ça, quoi. Il y a vraiment de quoi faire, hein. Franchement, sur ce début, en fait, tout ce qui se passe au micro sur le départ de ce SmackDown, en regardant les mecs qui évoluent, puisqu'il va y avoir, ils vont parler un peu de tout ce qui se passe sur le roster de SmackDown. On est dans le début de la saison première, je vous rappelle, bien évidemment. Road vers quoi? Vers Survivor Series, vers Rumble, vers WrestleMania, saison 37, comme on dit. Et que Owens et Bryan, ils font le constat que finalement, avec un roster comme ça, où il y a des gens comme Jey Uso, comme il y a Big E qui peuvent s'exprimer dans le ring, c'est encore bon, quoi. Mais voilà, ça serait encore meilleur s'il y avait un titre qui pouvait être défendu chaque semaine comme l'Intercontinental Championship. Bien évidemment, quand on parle de ce championnat, Kevin Owens dit que c'est le seul titre qu'il a jamais eu pour devenir certainement Grand Slam Champion, hein, tu me diras si je me trompe papy, mais je crois que s'il a effectivement le titre Intercontinental, il deviendrait Grand Slam Champion, notre ami Keo. Il l'a déjà eu. Ah, peut-être qu'il l'a déjà eu, t'as raison.
C'est le tag team qui lui manque.
Ah, c'est le tag team qu'il a jamais eu. Ah oui, t'as raison, c'est le tag team qu'il a jamais eu, tout à fait. C'est une très belle précision, voilà. Et finalement, comme on commence un peu à chatouiller du côté de Zayn, du titre intercontinental, des titres tag team, effectivement, ça va être le moment, évidemment, que vont choisir Ziggler et Bobby Roode pour se pointer. Salut, coucou les gars, on a entendu parler de John, c'est nous, on arrive, hein. On comprend pas pourquoi nous, on n'a jamais été cités, qu'est-ce que c'est que ce bordel, alors que nous, on est les plus grosses arrivées du monde merveilleux du show bleu. Ensuite, derrière, qui c'est qui arrive? Bam! Les Street Profits. Allez, on y va. Ils viennent pour se joindre à la fête. Eux aussi, ils sont contents d'être à SmackDown, d'autant plus qu'ils sont champions. Hein. Et évidemment, bien évidemment, qui c'est qui arrive derrière? Cesaro, Shinsuke, Nakamura. On a toute la Tag Team Division de SmackDown qui est présente. Tout ce beau monde se réunit. Un match est organisé. Mais c'est magnifique, mon papy. C'est magnifique, tout ça. Alors, avant de se lancer sur le match... Avant de lancer ce 8-match tag team match playa, hein, voilà, avec un match qui va se lancer entre Street Profits, Daniel Bryan, Kevin Owens face à Ziggler, Roode, Cesaro, Shinsuke Nakamura. N'en jetez plus, papy, ce SmackDown Fast and Furious. Hein.
Ah là, c'est parti, mon kiki. C'est bien, effectivement, comme tu le signalais, c'est la tag team division qui renaît de ses cendres avec trois vraies équipes et puis une dernière liaison dangereuse entre Kevin Owens et Daniel Bryan. Kevin Owens qui a fait de la grosse drague bien lourde en disant à Daniel, ah, tu sais, moi, pas de grand slam, il manque le titre tag team. Ça serait bien, tu vois, si on se battait pour le titre tag team. Tu sais, le titre tag team, si on se battait pour lui, nanana. Donc, Kevin Owens fait de la drague. Bah, ça a moitié fonctionné, puisqu'il se retrouve quand même dans un match tag team, même si c'est un 4 contre 4. Mais en tout cas, voilà, c'est le retour de la division tag team sur le devant de la scène. Nous sommes heureux, les oiseaux chantent, le ciel brille, c'est beau.
C'est formidable, on se croirait dans un sitcom de dessin animé. Voilà. Donc du coup, on a quand même un match qui va durer quasiment 15 minutes. Hein. Ça va pas rigoler, hein, cette histoire d'opener. Parce que non seulement c'est chaud, voilà, tout le monde se taunte et tout le monde veut prouver. Et du coup, ça va nous envoyer sur un match de par équipe. Voilà, un 4 contre 4 plutôt enlevé, ma foi, avec à 15 minutes comme ça en opener de Tag Team Division. Nous qui nous plaignons souvent de la Tag Team Division, et certainement à juste titre à la WWE, et ben là on a été gâtés. Voilà, 15 minutes de match, ça a envoyé, quoi. Tout le monde a eu son spot, j'ai envie de dire. Tout le monde a montré que ça allait bien pour certains, comme pour les Street Profits, que d'autres commençaient à se remettre dans le bain, comme Daniel Bryan. Et Kevin Owens un peu, hein, finalement, qui catch, mais qui est souvent au micro, qui fait souvent des KO show et tout ça. Donc c'était plutôt pas mal. Enfin, pour le coup, moi j'étais plutôt bien lancé. Évidemment, ça va se terminer avec un gros fraud splash de Montez Ford sur Cesaro. Cesaro qui prend le pin. Voilà, j'ai envie de dire, c'est l'info qui tue. C'est Cesaro qui prend le pin, mon bon papy. Alors qu'est-ce que t'as pensé de ce 4 contre 4 là?
Bah ouais, un gros match pour ouvrir SmackDown, plutôt sympa. Je crois que tout le monde a eu du temps d'antenne pour pouvoir se montrer un peu, alors que quand même c'était nombreux, donc c'est plutôt sympathique à voir. Je me faisais la réflexion en regardant le match, surtout en regardant l'équipe Hill, en fait, c'est qu'il c'était l'équipe de quarantenaire, parce que je suis pas sûr qu'il y en a un seul qui ait moins de 40 ans entre Ziggler, Rude, Nakamura et Cesaro. Et en face, t'avais aussi Bryan qui a plus de 40 ans, et donc, du coup, les Street Profits et Kevin Owens se retrouvent un peu avec l'ancienne génération. Et je trouve ça sympa, en fait, de me dire, bah voilà, il y a peut-être une petite passation de génération là, entre les anciens et les nouveaux. Et puis, ouais, un match ouais, plutôt enlevé, toujours un beau Frog Splash bien haut pour finir. Et puis, voilà, c'est sympa. Tu vois, moi, j'ai boudé pendant très longtemps la division tag team. Et là, bah, je me sens rouvrir mon âme vers cette division.
Oh là là, là, si tu ouvres ton âme, là, on est vraiment en plein, là, ça devient ésotérique, c'est quelque chose, quoi. La WWE va atteindre des sommets qu'on ne pourrait imaginer.
Tu prends le ciel.
Oh là là. Ouh, le monde merveilleux du show bleu n'a jamais aussi bien porté son nom.
C'est beau.
Alors, après ce match de 15 minutes, effectivement, la victoire des Faces, hein, de toute façon. Et derrière, en coulisses d'entrée, on va se rendre compte qu'il y a un procès qui est en place. Et qui va être une espèce un petit peu de fil rouge au cours de ce SmackDown, le procès du Money in the Bank qui débute avec, dans le cadre, Ron Simmons est l'huissier de ce procès. Donc tout ça, ça se passe, écoutez, si vous voulez, hein, sur un set, quoi, un truc vraiment à l'ancienne, j'ai envie de dire, WWE. Voilà, le juge, c'est du JBL, John Bradshaw Layfield, le Miz, qui a une avocate avec lui, hein, quand même, hein, et qui avait accompagné de John Morrison, voilà. Et qui prend la parole en disant qu'il est ici pour établir la vérité et pour arrêter le mal que Otis est en train de provoquer en détenant la mallette du Money in the Bank. Il jure qu'il fera un meilleur représentant de cette mallette. Otis, qui est donc dans l'autre partie, rétorque que lui, il n'a pas à tergiverser étant donné qu'il était dans le match et qu'il l'a gagné, quoi. Au contraire de son nez, il a gagné le match Money in the Bank et donc c'est normal qu'il ait ce contrat et cette mallette. L'avocat du mythe, finalement, pour le coup, elle semble relativement d'accord avec ses propos. Du coup, c'est pas du tout du goût du Miz, hein, qui décide de la virer immédiatement. Je crois que là, j'espère que là, il va se passer quelque chose. Mais on va vous teaser ça après. C'est la première partie. Donc voilà, on a un segment juge procès et tu me tromperas, papy, mais tout ça sur les airs d'un truc de sitcom policière à l'américaine, qui passe le soir vers 18h30 sur des chaînes obscures américaines.
Tout à fait, là, les New York Police d'État, du blues, je sais pas quoi, ce genre de truc où juge trial bidule New York avec, tu sais, les tatatins, toutes les deux secondes.
Oui, exact.
C'est pas Renault, hein, le truc américain là. Bref, oui, oui. Bon, alors là, c'était au moins on a été fixé tout de suite. Ça sera en mode gros n'importe quoi, puisque de toute façon, c'est pas un vrai juge, c'est pas un vrai avocat, c'est pas un vrai. Il y a rien qui semble de vrai là-dessus. C'est parti dans le n'importe quoi. Bon, allez-y, faites-vous plaisir, les gars. On attend la suite avec impatience. Tintin.
Voilà. Tintin. Vous inquiétez pas, peuple le gadget, Otis va revenir. Voilà. On va avoir un petit segment backstage où voilà, tous les faces qui ont participé au match tag team là, sont plutôt contents, ils célèbrent leur victoire. Ils vont être rejoints par Sami Zayn, qui lui, pour le coup, est un peu chafouin quoi, d'avoir été dénigré par Daniel Bryan. Et donc, il dit qu'il fait ce qu'il veut avec le titre IC et il conseille au Dragon de garder ses intentions pour lui le jour où il aura un titre. Donc là, clairement, là, on est lancé dans une feud. J'ai presque envie de dire une équation à trois là. Mais là, Sami Zayn, Daniel Bryan déjà d'office, et puis avec Kevin Owens qui traîne autour de tout ça. T'en penses quoi, papy?
Bah là, j'hésite. Alors, est-ce que ça sera une feud à trois autour du titre intercontinental, ou est-ce que ce sera Kevin Owens et Daniel Bryan qui vont se diriger vers la division tag team? Je n'ai pas encore arrêté mon avis, vu que la semaine dernière, en plus, on avait Otis qui tournait autour de Sami Zayn. A priori, je me demande si c'est pas juste toujours de la présentation des personnages en disant bah voilà, Zayn, c'est le mec qui veut pas se battre, c'est le couard, c'est le machin. Donc, comme on est en saison première et semaine suivante, je me demande si on n'est pas toujours en train de les faire croiser les uns avec les autres sans qu'il y ait vraiment de plan avant de démarrer vraiment le plan, en tout cas. Et à noter quand même, je ne sais pas si tu l'as saisi, que Daniel Bryan a demandé au Street Profits de le fister. Il a dit fistez-moi. Et ça les a un peu choqués, les Street Profits, quand il a fait cette demande. Mais bon,
Il a dit fistez-moi.
Mais il a tourné son poing en disant fist me. Et puis alors t'as des Street Profits qui l'ont regardé en disant mais il est taré ce garçon. Mais bon, il tente des choses, Daniel Bryan, il essaie de communiquer avec les jeunes.
Qu'est-ce que c'est que ce truc? Excellent, j'ai pas percuté en fait. Ça c'est dans le segment juste avant le truc
dont on a parlé. C'est juste avant que c'est Kevin Owens. Bah tu sais quoi, ils sont dans les coulisses juste avant que Sami Zayn arrive. Bah ils sont à quatre en train de faire les cons. D'ailleurs ils sont en train de vraiment bien s'amuser a priori. Bryan, Owens et les Street Profits. Et je dis, t'as une demande officielle devant les caméras de Bryan qui est mal accueillie par les Street Profits du coup.
D'accord. Alors ouais, tu vois, il y a des trucs qui échappent comme ça, voilà, pour peu qu'on soit distrait par quelque chose, etc. Et du coup, ça m'avait peut-être échappé, mais au final, moi, je trouve que c'est vachement intéressant, que ça soit pour la Tag Team Division, que ça soit pour le titre intercontinental. Enfin, du coup, il y a quelque chose de construit là pour chacun de ces titres, les titres intermédiaires de la division bleue, et je trouve que c'est plutôt pas mal. Et les catcheurs qui sont autour de ces différentes rivalités ou différentes interactions pour ces ceintures me plaisent. Donc écoute, j'étais plutôt satisfait à la fin de ce truc. Et bam, plutôt satisfait, mais derrière, il va y avoir un match quand même. Et un match de la division féminine. Alors là, on va avoir Bianca Belair face à Zelina Vega, qui sont donc deux nouvelles arrivantes, hein, quelque part, hein, sur SmackDown, dorénavant. Elles sont installées là. Ça va être un match très rapide. Bianca Belair va placer son Kiss of Death très vite, puisque le match va durer 2 minutes 30. Alors, on notera que Bianca Belair nous est présentée quand même bien bien dominante, bien forte, une tenue assez incroyable, on pourra en parler, voilà, habillée tout de blanc avec le sigle SmackDown imprimé partout. J'ai trouvé son style est assez incroyable à noter. Zelina Vega n'existe pas quoi, elle se fait vraiment démonter, voilà, bim bam boum, au revoir Zelina, 2 minutes 30 douche comprise. Qu'est-ce que t'as pensé de ce squash, mon bon papy?
C'est un peu comme le truc d'avant, en fait. Pour moi, c'est une présentation du personnage de Bianca Belair. Et donc, Zelina Vega, pour le coup, elle est vraiment là pour jobber. Je pense que là, elle est partie pour une petite période de vache maigre, Zelina Vega, parce que je ne suis pas sûr qu'il y ait vraiment du tout d'idée pour elle. Après, on n'est jamais à l'abri d'une surprise, mais du coup, là, elle était vraiment. Comme on le verra pour un autre catcheur plus tard, elle était vraiment là pour servir Bianca Belair et montrer Bianca Belair forte. Encore une fois, c'est le début de saison, on a des nouveaux personnages, on met un personnage très fort qui massacre quelqu'un de très faible. C'est du classique, c'est du logique pour moi.
Ouais, là vraiment, bon, voilà. De toute façon, il n'y a pas photo. On sent vraiment que là, autant Bianca Belair est dans la hype, autant Zelina Vega est vraiment là pour servir de faire valoir. Elle est en jobbing time, hein, j'ai envie de dire. Donc c'est comme ça, c'est Bianca Belair qu'il faut rendre fort. Et ça marche plutôt pas mal, hein, puisqu'elle est plutôt Bianca Belair, elle est plutôt impressionnante sur ce coup-là, quoi. Derrière, on va avoir une petite interview avec Shorty G, qui va parler un petit coup à Kella Bryston et qui va dire qu'il a accepté d'affronter Lars Sullivan ce soir pour montrer que voilà, pour prouver qu'il aurait dû être considéré dans la draft. Alors, c'est quoi cette histoire là, considéré dans la draft, bon, c'est donc officiel, Shorty G, c'est un free agent?
Non, il a été pris en recrutant free agent, en tout cas. Il a SmackDown, mais il n'a pas été pris dans la draft. Il a été pris loin derrière, le dernier des derniers.
Ah ouais, il a été pris genre, on a appris le truc par Twitter, quoi.
C'est ça, exactement.
Exactement. Voilà, et du coup, bah, effectivement, Shorty G, il a un match face au nouveau freak de SmackDown, en l'occurrence, Lars Sullivan. Alors là, bah écoute, troisième match de la soirée. Il va y en avoir quatre en tout, hein. Donc trois matchs dans la soirée, troisième match. Le match va durer 2 minutes. Shorty G va se faire démolir, va se prendre le freak accident par le freak. Et voilà, ça va mal se terminer. Kella Bryson, du coup, va revenir sur le ring très très vite et va demander à Shorty G comment il se porte. Et là, il répond qu'il s'en va. Voilà. I quit. Il quitte le petit là, il quitte, mais qu'est-ce qui se passe? Du coup, on va le retrouver dans quelque part backstage, où il va être rejoint par Adam Pearce, hein, qui fait vraiment office de la figure d'autorité, qui lui demande s'il est conscient de ce qu'il a dit, comme ça, en direct à la télé, à la Fox, petit. Ouais, en même temps, bon, on est sur Fox Sports, il y a eu un petit délocalisation de ce SmackDown. Et il lui dit que ouais, il est tout à fait conscient de ça, qu'il en a marre d'être reconnu juste pour sa taille. Lui, il veut faire ce qui lui plaît, parce que chacun fait, ce qui lui plaît. Et la raison pour laquelle il veut, c'est que dorénavant, on l'appelle Chad Gable. Donc, en l'occurrence, juste son nom, quoi. Alors, mon papy.
Bah oui.
Entre Shorty G, Chad Gable et de l'autre côté, Lars Sullivan, est-ce que ton cœur a choisi?
Bah oui, moi je trouve que le freak c'est chic et que Lars Sullivan s'est imposé de manière éclatante dans ce match. Bon, là on a vraiment la copier-coller du match d'avant, hein, entre Bianca Belair et Zelina Vega. Cette fois-ci c'est Lars Sullivan qui bouffe Shorty G. Je suis extrêmement content du segment post-match avec Shorty G qui dit qu'il tue son personnage Shorty G pour redevenir Chad Gable. Non pas que Chad Gable, j'en suis fan, mais Shorty G, c'était une catastrophe, c'était un échec complet. On en avait parlé souvent, je pense, en disant que c'était le mec qui était petit et qu'il n'y avait que ça n'avait vraiment aucun intérêt. D'ailleurs, il a lui-même dit qu'il voulait plus être connu parce qu'il était petit, donc c'est bien, il a tué son personnage. Je sais pas où c'est peut-être nulle part, mais au moins, il fallait tuer Shorty G. Je suis ravi qu'il l'ait fait. Bravo, Chad Gable.
Ouais, c'est au final certainement une bonne chose. De toute façon, je pense que c'est un truc qui le suivra tout au long de sa carrière, le fait que voilà, il fait partie des petits gabarits de la division, que c'est comme ça, et ça sera quelque chose d'incessant, j'ai envie de dire. Et ce Shorty G, il y aura des heels pas sympas qui s'en serviront pour venir l'embêter avec ça. Ah, tu te rappelles du temps genre du Baron Corbin, tu vois, papy, tu vois, toujours le relou à la récré là, tu sais, qui vient.
On s'associe, on sait. Et peut-être que Chad Gable, du coup, a profité pour repasser. On n'en sait rien. Enfin, de toute façon, il était totalement inintéressant en Shorty G. Donc, c'est un espoir de reboot pour lui, même si, effectivement, il n'a pas non plus le physique qui lui permettra d'aller toucher les étoiles, je crains.
Non, il n'aura jamais le physique. Mais il peut se créer un univers dans la mid-card.
Oui. Bien sûr, et surtout dans la division tag team, je pense, parce que tag team, mine de rien, il suffit qu'ils se mettent avec un mec un peu plus grand, et puis après, c'est dynamique, ça va super vite. Des mecs comme Xavier, je pense qu'il n'est pas super grand non plus, les Ousos, ils ne sont pas méga grands non plus. Enfin, il suffit que tu sois dynamique, tout ça, ça passe beaucoup mieux quand tu n'es pas tout seul dans le ring, quoi, sur la scène brute. Donc, j'espère pour lui qu'il va retourner là-bas.
Après, je ne sais pas ce que tu en penses, mais on peut s'arrêter deux secondes là-dessus. Mais voilà l'exemple typique, mine de rien, d'un mec qui est là quand même depuis quelques années maintenant, entre NXT et le main roster, voilà, qui est un petit gabarit, pour qui c'est compliqué, etc., dans un business tel que celui de la WWE. Mais mine de rien, le mec est là et s'accroche et reste visible à du temps d'antenne sur un show, un des shows phares de la Fédé quand même.
Ouais, après, là c'est le low card, c'est même pas en mid card tout à l'heure, lui c'est vraiment plus le low carder type quoi. C'est comme t'avais avant des Heath Slater, des Curtis Axel, bon, Bo Dallas il est là mais il est plus là. Enfin, pas mal de gars qui sont vraiment là pour naviguer en low card. Zack Ryder qui était un low carder éternel en fait. Et bah il est là, c'est certainement un très bon travailleur. Je pense qu'il est apprécié de ses collègues. Malheureusement, ils n'ont jamais vraiment d'idée pour lui. Quoi. Alors, c'est pour ça que j'espère sur une tag team, parce qu'une tag team, mine de rien, tu prends n'importe quel low-carder, il suffit qu'il y ait la bonne tenue, la bonne série, ça part directement au sommet. Quoi. Donc, je l'espère pour lui, mais sinon, oui, bah, c'est, en tout cas, c'est bien pour lui, quoi, qu'il reste dans le main roster et puis qu'il ne disparaisse pas. Mais je pense que c'est juste, voilà, il a sa place en low-card et je ne suis pas sûr qu'il en décollera jamais. Quoi.
On verra s'il est capable de se sortir de là, de coller un coup de talon et voilà. Sortir de là, voilà. Bon, allez, on revient vers le show. Ding dong, qui c'est qui arrive ? Bah, voici la championne de SmackDown qui est là, voilà, qui est au milieu du ring, sur une chaise, voilà, assise, et elle est là pour nous faire une petite promo. Elle avoue qu'elle est ici parce qu'elle en a marre. Voilà, elle en a marre, Bayley. Quoi. Durant la semaine, elle fait des interviews pour la WWE. C'est épuisant qu'elle a eu 4 interviews et à chaque fois, on revenait toujours sur le même sujet. Sasha Banks, bah, en même temps, c'est ton adversaire pour le prochain pay-per-view. Donc, ça peut paraître logique que le journaliste te pose des questions sur ton match. Elle aime pas ça, ouais. Oui, voilà, elle aime pas ça, Bayley. Donc, elle est venue ce soir pour dire une bonne fois pour toutes qu'elle ne signera pas le contrat du match. Voilà. Voilà. Elle explique tout simplement que c'est pas parce qu'elle a peur, mais c'est parce qu'elle mérite pas un match pour son titre. Voilà, tout simplement, quoi. On n'est pas la boss qui décide de ce qu'elle veut, quoi. C'est elle la boss, Bayley, quoi. Donc, elle considère qu'elle en a terminé avec son ancienne soi-disant meilleure amie, hein, et qu'elle a décidé d'aller de l'avant. Et que Sasha, elle a décidé d'être une emmerdeuse. Voilà, mon papy, où on en est dans cette histoire. C'est un vrai soap, hein, cette affaire. Hein. Du coup, Sasha Banks a fait son entrée avec le contrat en main. Hein. Elle a les papiers. Voilà, elle est très administrative, finalement, Sasha. Et donc, Bayley, elle, par contre, beaucoup moins. Donc, elle veut l'attaquer avec sa chaise. Mais elle va l'éviter. Elle va en profiter pour lui choper la ceinture. Ah, 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 la championne veut la récupérer, mais se fait contrer par un gros coup de genou dans ta face. Puis elle est coincée dans la chaise. Alors là, c'est la tête dans la chaise, la tête pressée. Elle se retrouve obligée, mais carrément, voilà. Imaginez la scène. Elle est, la tête pressée, coincée entre les deux parties de la chaise. C'est une scène horrible que je ne conseille pas aux enfants. Ne faites pas ça chez vous. Voilà, la tête pressée, elle se retrouve obligée de signer le contrat. Ou en tout cas, faites ça au travail. Mais surtout, non, ne faites pas ça chez vous. Papy, qu'as-tu pensé de toute cette scène absolument horrible, quoi.
Oui, alors horrible. Alors, je suis content qu'ils aient moins parlé que d'habitude parce que je crois là que t'as bien, t'as limite dit une extension de ce qu'avait dit Bayley. C'était en gros, je vais pas signer, gna, je suis méchante, je veux pas signer, vous m'aurez pas, je vais pas signer. Par contre, quand t'as Sasha qui arrive dans le ring avec un contrat à la main, son premier réflexe, au lieu de se barrer, bah, c'est de rester là et d'essayer de l'attaquer comme une conne et puis de te faire avoir, quoi. Bayley qui est forcément méchante, donc stupide, et donc qui reste dans le ring alors que Sasha veut manifestement lui forcer à signer le contrat, et au final, elle se fait piéger par la chaise, sa fidèle amie, celle sur qui elle s'assoit semaine après semaine, qu'elle prend dans ses bras, qu'elle caresse, qu'elle fracasse des têtes avec, et là, c'est sa tête, elle, qui se fait coincer dedans. Elle se retrouve à signer. Du coup, on aura le match au pay-per-view. C'était attendu parce qu'ils n'allaient pas annuler le match deux jours avant le pay-per-view, sachant en plus que la carte est quand même particulièrement vide. Mais c'est bien. Enfin, bon, je préfère qu'ils se tapent dessus, qu'ils parlent moins, que des longs segments à faire du je pleure et tu m'as trahi. Et non, mais c'est pas moi qui t'ai trahi, c'est toi qui m'as trahi d'abord. Et puis patati patata. Là, au moins, ça s'est fini au coup de poing et chaise dans la gueule. Donc, c'est très bien. Vivement Hell in a Cell.
Ouais, bah écoute, moi c'est un peu le premier truc qui me vend un peu le pay-per-view, tu vois. C'est un peu le truc qui rappelle que c'est le go-home show, quoi. Donc je peux être assez critique parfois sur, sur Bayley ou sur Sasha Banks ou cette rivalité au long cours hein, par moment. Mais globalement, moi je trouve qu'elles ont fait plutôt le taf. Elles ont vendu leur truc. Elles ont vendu, bah ouais, voilà, elles ont vendu leur truc pour dimanche. Et voilà, et finalement, c'est leur affaire. C'est bah vous voyez, nous, ça va se passer un peu comme ça. Et ce match, il est attendu. Ça fait un sacré moment qu'on le vend et revend. Et finalement, c'est pas si mal. Est-ce que ça, c'est pas un signe que finalement, peut-être comme Arrow, tu vois, le tout haut de la carte à SmackDown chez les filles, bah il est un petit peu trop seul. Il y a peut-être une ou deux catcheuses et puis le reste du monde.
Ah bah, y en a deux, en l'occurrence, les deux qui sont à Hell in a Cell. Et bah là, c'est pour ça que je suis heureux d'avoir vu Bianca Belair avoir un match un peu avant. Parce que le SmackDown d'avant, je crois qu'il y avait eu zéro segment féminin, hormis Sasha et Bayley, encore une fois. Et donc, elle s'est vraiment trop seule. Peu de temps avant, il y avait eu Nikki Cross et Alexa Bliss qui s'étaient détachées, mais elles sont parties à Raw. Donc, il n'y avait plus rien du tout côté bleu. Et donc, si Bianca Belair sort un peu de l'ombre, ça, je pense que ça peut être la personne qui fera le lien entre le marasme de la low card féminine et le top de la carte féminine. Parce que le top de la carte féminine est vraiment intéressant, hein, que ce soit à SmackDown, même à Raw avec Asuka, c'est des super catcheuses. Hein. Mais par contre, derrière, t'as vraiment rien. C'est le désert. Donc, Bianca, moi, je mise grandement sur Bianca Belair pour être la personne qui sera peut-être pas au main event tout de suite, mais en tout cas, qui va permettre de se rapprocher un petit peu. Et espérons qu'on voit d'autres filles dans les prochaines semaines s'intégrer un peu. Alors malheureusement, ils n'ont pas récupéré les meilleures filles côté SmackDown parce que de mémoire, il y a donc Zelina, il y a Carmella, il y a comment elle s'appelle, Billy Kay, il doit y avoir Tamina aussi, Natalia. Donc c'est pas celles qui font rêver, quoi. Mais bon, pourquoi pas. Peut-être qu'il y aura une idée derrière la tête. Je ne sais pas. Je croise les doigts en tout cas.
Ouais, c'est pas si mal. Écoute, comme toi, je vais espérer pas mal sur l'arrivée de Bianca Belair quand même, malgré tout. Et effectivement, sinon, ça peut être toujours compliqué cette division féminine. Mais pourquoi pas. Bon, on va repartir sur le procès donc, qui se passe sur la fameuse série où il y a les témoins des deux parties qui prennent la parole. Donc, il y a John Morrison qui va parler, hein, qui va affirmer qu'il a été blessé moralement par les attaques répétées d'Otis, alors que Rey Mysterio, lui, parce qu'il y a Rey Mysterio qui est là, oui, il faut vous signaler, Rey Mysterio va venir témoigner en faveur d'Otis, quoi, et il affirme qu'en tant que
luchador.
Ouais, voilà, en tant que participant au ladder match, la mallette revient donc logiquement au vainqueur et donc à Otis. Donc, Rey Mysterio est vraiment du côté du reglamente. Et voilà, il y a même Asuka qui va venir témoigner, mais elle ne témoigne qu'en japonais. Donc, vous m'excuserez de ne pas faire la traduction. En l'occurrence, la femme de Yeren n'est pas présente pour nous faire une petite traduction. Donc, j'aurais été curieux ce qu'elle lui explique. Et du coup, devant l'incompréhension de JBL, c'est Teddy Long qui va venir se montrer, qui va dire qu'il, lui, il parle japonais, qu'il a compris le témoignage de la championne d'Euro, qui n'est que ce que finalement la même chose que ce que disait Mysterio. Donc, on est vachement avancé dans cette affaire. Et finalement, on va voir Tucker qui va bien évidemment venir dans le même sens. Va même ajouter que le Miz mérite un peu finalement tout ce qui lui arrive. Le Miz va pas être content, mais va être interrompu par Ron Simon. Voilà, tout ça, c'est un peu de la farce, c'est un peu de la blague. JBL allait rendre son verdict quand le Miz souhaite apporter une nouvelle preuve. Cette preuve, si Otis s'engageait le procès, JBL fait vote de face. Et cette preuve, c'est quoi? C'est une mallette noire. Et où il semblerait que apparemment, eh bien, écoute, il y a beaucoup d'argent. Donc finalement, la corruption, de toute façon, à la WWE ou dans les palais de justice aux États-Unis, bah, c'est un peu kiff-kiff, bourricot. Et finalement, le Miz, bah, tout simplement, achète JBL. Ne penses-tu pas que c'est un scandale absolu, papy, ça, quand même?
Non, au contraire. Au contraire, je suis ravi de cette fin de segment parce que j'ai eu peur que Otis en sorte. Et non, Otis a perdu. Oui, Otis a perdu et du coup il se retrouve à Hell in a Cell. C'est merveilleux ça. Vous avez enfin quelque chose qui existe sur cette mallette. Enfin un rebondissement. C'est encore une fois un grand guignolesque, n'importe quoi. Asuka qui parle japonais, Teddy Long qui dit qu'il comprend, les yeux de JBL qui font gling gling quand il voit de l'argent. Mais toutes les deux secondes, et puis du coup, JBL qui se dit, mais c'est quoi ce bruit au fait depuis tout à l'heure qu'on entend? c'est n'importe quoi, c'est n'importe quoi. Mais le final, le grand final, c'est quand même la décision de JBL qui allait taper en disant qu'Audi s'est gagné parce qu'il avait effectivement dit dans un discours magnifique que, bah, mine de rien, Otis était le gagnant légal du truc et que de toute façon il y avait un an pour utiliser sa mallette et que s'il n'est pas utilisé c'était pas grave et que le mise avait c'est n'importe quoi sa demande et que, vu qu'on était dans le catch et qu'ils ont le droit de se taper quand même, bref, et bien non, le mise arrive à retourner la situation avec sa mallette pleine d'argent et du coup on a peut-être le premier segment, enfin la première chose intéressante par rapport à la mallette, c'est un match pour garder ou pas la mallette entre le mise et oui. Otis. Ça, c'est la grosse nouvelle, ça. Je crois pas que c'est parce qu'on est au plafond.
Tout à fait, tu as raison. C'est de toute façon. Voilà, je vais pas t'enflammer sur ce sujet, et tu as bien raison de t'enflammer sur ce sujet, car, comme tu le dis si bien, enfin, il se passe quelque chose. Et enfin. Et en plus, si tu veux, moi, ça a été au-delà même de mes espérances, puisque sur l'instant, je n'aurais pas pensé que nous aurions droit à un match dès dimanche. Que dès dimanche, ils allaient décider de régler ça en disant bon, bah voilà, puisque c'est comme ça, voilà, il va y avoir un match dimanche entre les deux. Donc, incroyable retournement de situation. Il suffit d'un juge acheté par le Miz, voilà, corruption de fonctionnaire. Et grâce à ça, eh ben, on a un match dimanche à Hell in a Cell. Je t'avoue que finalement, je m'en suis beaucoup plaint. Donc, du coup, bah, c'est plutôt une bonne nouvelle ce truc.
Ah oui, la corruption, ça a du bon. Vive la corruption.
Dans le catch, en tout cas, oui, effectivement, ça peut être considéré comme une bonne chose. On se plaint beaucoup, mes amis, ces dernières semaines, de comment est traitée la mallette Money in the Bank. Enfin, en l'occurrence, moi.
Non, moi, mais je suis d'accord avec toi, hein, c'était n'importe voilà. quoi. Hein.
Et voilà, je crois que globalement, on s'est beaucoup plaint de ça. Donc, du coup, finalement, il se passe un espèce de rebondissement comme ça, un petit peu bizarre. Et un petit peu vraiment à la sauce. Alors là, pour le coup, l'histoire du tribunal, etc., c'est des choses qu'on a déjà vues à WWE, papy. Hein.
Oui, bon, c'est du classicisme terrible. Et puis, non, ils l'ont pris, comme je le disais, sous le signe de la rigolade et de n'importe quoi. Puis voilà, faites-vous plaisir. L'essentiel, c'est je pense que c'est un one-shot pour faire un petit peu d'audience du côté de la Fox, et puis qui peut-être moins l'habitude que les suivants réguliers de WWE. Et puis derrière, ça nous fait un match pour Hell in a Cell. On manquait de match Hell in a Cell. En plus, c'est un match pour la mallette. C'est que demander de plus. Hein.
Ouais, tout à fait. Ouais. Ah oui. Là, la mallette est engagée, etc. Donc là, il n'y a pas d'histoire. Quoi. Donc non, c'est vraiment voilà, l'affaire est là. L'affaire est faite. C'est peut-être même l'affaire de ce SmackDown, qui sait. Hein, mais en tout cas, c'est quand même une grosse information moi, personnellement, je n'attendais pas. C'était vraiment... voilà, j'étais un peu, je vous avoue, la mallette, là, ces derniers temps, de toute façon, à chaque fois qu'apparaissait Otis ou quoi que ce soit, on était un petit peu en mode, mais bon, rien à foutre, quoi. Mais c'était un peu triste, d'ailleurs, d'en être là. Et finalement, ce segment de comedy wrestling était plutôt le bienvenu, puisqu'il nous a booké quelque chose, et ça nous fait déboucher sur un match dimanche. Donc, finalement, écoute, tout va bien dans le meilleur des mondes. Voilà, la mallette est un peu le... On va dire que toutes les histoires possibles autour de la mallette vont peut-être enfin se concrétiser avec ce nouveau match.
Espérons.
On attend que ça. Allez, derrière, on va avoir un match entre l'ancien Messi du lundi soir et l'ancien disciple du Messi du lundi soir. Sauf que ça se passe le vendredi soir maintenant, et ils sont tous les deux à SmackDown. Les débuts à SmackDown pour Seth Rollins et Murphy dans le ring. Alors là, on va avoir le deuxième gros combat. Il n'y aura eu que 4 combats de toute façon ce soir. On aura le deuxième gros combat de la soirée. Tu vas pouvoir m'en dire plus, mon papy, puisqu'on va avoir un match de 17 minutes, 17 minutes 10 même. Et Murphy a bien semblé à plusieurs occasions capable de remporter la mise. Hein. Il a fait un gros match, le Murphy, quoi. Seth Rollins va réussir à renverser la vapeur, mais ça sera vraiment chaud. Il faudra qu'il sorte tout son arsenal, quoi, les clothesline, les Falcon Arrow, la totale. Il va falloir qu'il exécute son blackout, son curve stomp à la fin du combat pour pouvoir véritablement décimer son disciple, quoi. Donc blackout pour la victoire de Seth Rollins au bout de 17 minutes 10 de match intense. À la fin du match, Le Messi va continuer d'attaquer son ancien disciple, mais il va sortir le Kendo Stick. Alors Kendo Stick, on en a déjà longuement parlé dans plusieurs reviews, parce que décidément, Murphy semble abonné à cette torture. Mais pendant ce temps-là, il y a la fille mystérieuse qui est dans le coin, Alia, qui regardait le match, voilà, par hasard, en compagnie de papa et du frangin, et qui va demander d'aller aider l'Australien, ce que vont refuser les deux hommes. Et donc, du coup, la fille de la famille va se décider à y aller seule et va aller protéger son ami, ce qui n'est pas du tout du goût de Dominique, qui va se voir obligé un peu d'intervenir. Le papa, Rey Mysterio, arrive ensuite armé d'une chaise. En ce moment, la chaise, c'est très, très, très fun. C'est très, très, très hype à la WWE. Et il va faire fuir le Greater God. Il va faire fuir Seth Rollins. Et Aliyah et Murphy vont rester ensemble sur le ring. Ça se finit là-dessus. Mon bon papy, on en a déjà parlé la semaine dernière, donc on en reparle cette semaine. Ils ont transvasé la feud, la rivalité d'Euro à SmackDown. Alors, comment tu prends tout ce truc-là ?
Bah, alors déjà, je prends le match avec grand plaisir, parce que 17 minutes de très haut niveau.
Ah, le match, ouais.
Avec, je n'ai rien acheté. Ils ont vraiment fait de la bonne psychologie sur pas mal de segments. Effectivement, avec Aliyah qui regardait le Murphy avec de la crainte, et c'est son frère et son père qui disaient « Non, mais arrête de regarder le match, t'as pas soutenir Murphy. » Alors, c'est vrai. La peau, franchement, elle vit dans une famille un peu spéciale, parce qu'il l'empêche même de regarder la télé, la pauvre Aliyah. Donc, les mystérieux, ça rigole pas. Hein. Et Murphy qui, une nouvelle fois, alors, j'ai un petit doute quand même, parce que j'ai l'impression que ça fait plusieurs fois qu'on voit Murphy sortir des énormes matchs contre des top stars. J'ai le souvenir qu'il a affronté, je crois, Bryan à une époque qui fait des grands matchs contre lui aussi. À l'époque où, il y a longtemps, là, quand il enfin, lance en solo d'ailleurs. Et derrière, ça n'est pas débouché sur grand-chose. Donc j'espère que là, ça lui permettra que cette rivalité-là permettra non seulement à Dominique de rentrer dans le main roster, mais aussi à Murphy d'éclater au plus haut niveau, parce que franchement, je trouve qu'il mérite. Ça fait quand même plusieurs fois qu'on trouve qu'il fait des super matchs. La fin de l'histoire avec Aliyah qui finalement protège plus Murphy qu'elle protège son propre frère lors de l'attaque de Rollins. On parlait de soupe tout à l'heure entre Bailey et Sacha, là c'est pure soupe aussi, hein, entre Aliyah qui est dans les bras de Murphy qui regarde papa et frérot qui jettent des regards noirs en disant non, pas ma fille, pas ma sœur, va pas voir l'Australien, ils sont fous là-bas. Non, mais que se passe-t-il ? Et puis, tel un soupe, t'as la caméra qui se fige alors que les gens se regardent. Et que se passera-t-il ? On verra la semaine prochaine, peut-être que l'un d'entre eux jettera un autre regard. Dira ne pars pas, reste avec moi, prends ma main, je ne sais pas, je ne sais qu'est-ce, mais en tout cas, il ne faut pas oublier que c'était un super match. Voilà pour ce match qui était bien plaisant.
Je te rejoins complètement, vraiment, la qualité du combat là, entre les cordes, c'était fantastique, quoi. Les deux. Et puis, Murphy, on l'oublie souvent à force, quoi, avec son rôle de disciple, tout ça, mais c'est un sacré athlète, quoi. Et ça a envoyé du très très lourd, hein, de la grosse souplesse. Voilà, quelques moments, quelques phases un peu, on se tient, on se chope dans les cordes, on se met des coups, on se strike. Puis finalement, on revient un peu au sol, ça tente des soumissions. Mais bam, ça va rebalancer un coup de genou derrière. Enfin vraiment, entre les cordes, c'était vraiment super propre. Alors bon, moi, le transvasement de la rivalité, si tu veux, bon bah là, on avait eu un peu de temps, entre guillemets, pour s'y faire. Puisque voilà, à partir du moment de la draft, on savait là dorénavant que voilà, on allait retrouver tous ces acteurs dans cette rivalité là. Bon, du coup, c'est sympa, mais j'aurais aimé un peu qu'on passe à autre chose. Mais j'ai bon espoir parce qu'en même temps, je me dis, bah justement, peut-être ce combat là, Rollins Murphy là, c'est un petit peu le basculement vers autre chose, et peut-être qu'on va nous proposer un peu autre chose dans cette rivalité là. Donc du coup, bah, je me dis bah pourquoi pas. Et je confirme que oui, Murphy entre les cordes comme de toute façon Rollins nous assure d'un truc vraiment vraiment cool. J'ai vraiment vraiment bien aimé tout ce passage.
C'est bien, on aime bien
quand on est enthousiaste comme ça, quoi, ça c'est cool. Voilà, quoi, un bon segment qui s'est bien passé dans des bonnes conditions. Merci la WWE, nous vous remercions. Et après cette pause, nous allons rejoindre Roman Reigns et Paul Heyman qui vont faire leur entrée. Ils sont tout de suite interrompus, hein, parce qu'on croit que c'est Jey Uso qui s'est infiltré dans le vestiaire de Reigns et qui s'est assis à sa place. Voilà, qui dit que c'est bon d'être à la place du chef. En fait, c'est en réalité, vous l'avez bien compris, en fait, c'était le frangin, les jumeaux. Donc, le frangin Uzo qui a usé de cette petite distraction, en l'occurrence Jimmy, pour permettre à Jay d'attaquer par derrière le cousin. Voilà, ça, c'est pas beau. Alors, évidemment, mon bon papy, je te le donne en mille. Avec quoi il est armé, le Jay ?
Avec une table ?
Eh mais non, avec une chaise. Voilà, ah. Quoi, donc... mais comment c'est possible, mais comment se fait-ce? Écoutez, voilà, voilà, évidemment, une chaise, hein, bien évidemment, parce quand on attaque quelqu'un dans une avance, c'est systématiquement une chaise, ou sauf quand on est Murphy, on a le droit au kendo stick. Mais sinon, c'est pas possible. Le challenger va quand même, le challenger, il va quand même être contré par le champion, qui va quand même réussir à le mettre à terre, qui va lui exécuter un petit splash, comme ça, un petit splash des familles, en passant. Il est rejoint par le frangin, et ils repartent, satisfaits de ce qui vient de se passer. Roman Reigns, il va se relever quand même difficilement, mais il va alpaguer les jumeaux en leur disant que s'ils ne comprennent pas leurs actes, que leurs actes vont avoir des conséquences. Et ça, c'est pas bien, les cousins. Vous vous rendez pas compte, il va y avoir des grandes conséquences. Parce que Roman, il n'est pas leur champion, il n'est pas le visage de SmackDown, il n'est pas le top face, il n'est pas le top heel, il n'est pas le top man de la compagnie. Mais il est très bien, il est le chef. Voilà, je crois que quand il a dit ça, Roman, à peu près tout est dit. Si Uzo parvient à le faire abandonner, il pourra toujours vivre et se relever. Mais ça, ce n'est pas le cas pour Jey Uso, qui, lui, ne pourra plus vivre en sachant l'humiliation qu'il aura subie à Inosel. Quant à Uso, si Jey Uso y perd, lui, son frère, leur femme, enfants et futurs petits-enfants, parce que alors là, il a mis 4 générations dans l'affaire, hein, ils seront tout simplement banni et exclu de la famille. Alors là, les Samoans, quand on vous dit qu'ils déconnent pas avec la famille, bah là, on est vraiment dans un exemple ultime. Puisque non, ils vont nous mettre un Hell in a Cell match, I Quit match, dimanche, entre les deux cousins. Mais en plus, carrément, le chef tribal a carrément décidé qu'il allait bannir de la famille les cousins si jamais ça se passait mal pour eux. Mon papy, tu as des choses à dire là-dessus.
Oui, il y a une petite subtilité, je crois, en fait. Il me semble que Roman, ce qu'il dit exactement, c'est que si jamais Roman s'impose et que Jay abandonne, soit Jey Uso et son frère rejoignent le clan en admettant que Roman est le leader de la tribu, soit effectivement, ils seront bannis de la tribu et leur famille, etc., et leurs enfants, etc. Donc, il y a une espèce de petit truc en disant, si jamais je te chope, là, tu deviendras mon acolyte, ou alors tu es viré des Samoans et tu dégages et voilà, tu es ruiné, tout ce que tu veux. Donc, je pense que derrière ça, il y aura certainement une petite tension avec notamment Jimmy, parce qu'en fait, pendant tout le segment où Roman Reigns parle au micro, finalement, c'était autant Jay qui va l'affronter ce week-end, était en mode ouais, vas-y, tu rigoles, je vais t'affronter, je vais te massacrer, j'ai pas peur de toi. Autant Jimmy qui est toujours blessé. Lui, tu avais l'impression qu'il entendait bien les paroles de Roman et qu'il se disait « Purée, là, il y a des gros enjeux dans le truc. » Parce que, en fait, Roman a présenté le truc en disant « Il n'y aura pas de bonne solution. Soit moi, Roman, je perds. Et dans ce cas-là, il n'y a plus de chef dans la tribu va se planter. Soit moi, je gagne. Et dans ce cas-là, vous devenez mes acolytes ou alors vous disparaissez. » Donc là, ils ont Roman, il leur a vraiment foutu la pression avec sa voix toujours cassée là, en mode « Hey, vous allez voir ce qui va vous arriver, les gars. » Donc voilà, c'est Roman le parrain qui fait peur aux cousins. C'est vivement dimanche.
Oui, vivement dimanche. Après, je suis assez d'accord avec toi sur le fait que effectivement Jimmy n'a pas la même réaction que Jay face à tout ce qui se passe et face aux intimidations et aux promesses très 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 méchantes de Roman Reigns. Et du coup, c'est vrai qu'on sent qu'il y a un espèce de décalage entre les deux frères. Donc peut-être que concernant notre Jimmy, qui lui est pas dans l'équation parce que lui ne catche pas, il est toujours blessé, mais peut-être plus pour très longtemps. On va avoir des surprises dimanche dans ce match, de toute façon. Ça va pas se passer comme ça, quoi.
Jimmy est déjà intervenu dans le dernier pay-per-view, hein, en jetant la serviette. Donc, mine de rien, c'était peut-être un truc anodin la première fois, mais ils sont peut-être vraiment tous les trois impliqués dans la rivalité.
Ouais, complètement. Enfin, voilà. Ainsi se termine. Finalement c'était notre main event, hein, le main event catches qui était vraiment le Rollins Murphy. Donc on va passer à la tradition pour ce SmackDown du 23 octobre 2020. Mon bon papy, ton top, ton flop et ta note.
Ouh, et ben c'est compliqué. C'est compliqué parce que j'ai trouvé que c'était un plutôt bon show. J'ai pas trouvé de gros points faibles. Donc je vais garder le flop pour après, le temps que je me remette le match, le show en tête. Mon top, je vais le donner. Allez, on va le donner à du catch du coup. Même s'il y a eu plusieurs trucs sympas, je vais le donner à Rollins versus Murphy. 17 matchs de catch, très bon niveau. En quasi main event. Donc c'était très bien. On avait dit la semaine dernière qu'on avait eu un bon show de fin de saison. Là, on a un bon show de Gomme Show. Donc c'est bien, on est gâté. Enfin, moi, en tout cas, je trouve qu'on est plutôt gâté côté SmackDown ces temps-ci. Avec peu de matchs, mais des matchs plutôt bien faits. Donc c'était très bien. Mon flop, du coup, je ne sais pas quoi dire, hein, mon flop. Je vais le donner à... Allez. C'est vraiment un flop pour dire de donner un flop. Je vais donner à Sami Zayn qui, pour l'instant, fait homme de couloir. Ça fait 2 semaines de suite qu'il croise des gens en disant « Ouais, moi, je ne vais pas me battre. » Donc, il a voulu pas me battre contre Otis. Il ne veut pas se battre contre Daniel Bryan. Je sais bien que c'est pour construire son personnage, mais j'espère quand même qu'on le verra un jour dans le ring parce qu'il est plutôt pas maladroit dans le ring. Donc, un tout petit flop à Sami Zayn, vraiment histoire d'en donner un. Et ma note, c'était un show moi, qui m'a vachement plu. Tout n'était pas parfait, mais là, le Go Home Show, il y a que 2 matchs, hein, 2,5 avec l'Otis Miz, mais les 2,5 matchs ont été bookés, en tout cas, ils ont été bien promus pour le pay-per-view. On a eu un gros match en main event, un bon match en ouverture. Les petits nouveaux commencent à montrer leur tête, donc plutôt bien satisfait de ce SmackDown. Je vais mettre on sait la fête du slip, on va mettre à 3,5.
Ah ouais, effectivement, ouais, une très très belle note du papy, là, attention. Cela dit, moi, ce SmackDown, je m'a pas laissé de marbre non plus. Je regretterais qu'il y ait eu que 4 matchs, dont 4 matchs, il y en a 2 qui durent que 2 minutes, quoi, donc effectivement, c'était, voilà, on a 2 squash de l'autre côté, celui de Bianca Belair et celui de Lars Sullivan. Je suis pas sûr que l'équilibrage est vraiment forcément super bien, super à l'avantage de ces superstars là, mais en tout cas en ce qui concerne le main event, le fait que comment Roman Reigns s'impose auprès des cousins, comment ça envoie dans les différentes rivalités, la Tag Team Division a relevé bien la tête et tout ça, donc finalement je suis content de ce qui se passe sur la mallette parce que je me dis qu'avec un petit miracle ils vont peut-être se rendre compte un peu de l'erreur totale et qui vont essayer un peu de rectifier le tir en faisant récupérer peut-être la mallette par le Miz, qui sait ? On va en parler dans les pronos, là, après, là. Donc du coup, tout ça, c'était un épisode qui était assez équilibré. Puis, donc moi, je vais mettre mon top au retour de Daniel Bryan, voilà, parce que moi, j'ai été vraiment super content de revoir l'American Dragon, l'a vraiment relancé, le revoir dans le ring et tout, donc ça veut dire que là, on a l'assurance de l'avoir un peu... de relance un peu dans la bagarre, et ça c'est cool. Moi je suis bien bien content de revoir Daniel Bryan dans le truc. S'il se lance dans le premier temps dans la division par équipe, bah pourquoi pas, hein. Il y a fait des belles heures, donc que ce soit avec Rowan, que ce soit avec Kane, enfin avec tous ceux à qui il est passé par équipe, en général il nous fait souvent plaisir, Daniel Bryan. Donc je suis bien content du retour de l'American Dragon aux affaires, ça fait vraiment plaisir. En plus là, associé avec ce trio dont on a parlé au début de review, Bryan, Owens, Zayn, tout ça, moi ça me va plutôt bien tout ça. Allez, on y va à fond. Mon top à Daniel Bryan et mon flop. Mon flop, je vais le donner à Zelina Vega, juste parce que d'accord, elle s'est fait squasher, elle est venue pour jobber pour Bianca Belair, etc. Mais je regardais un petit peu avec nostalgie quand on parlait d'elle, du temps de Angel Garza, de Andrade, pendant le mars Covid, là, le mois de mars Covid, là, et les premières semaines du confinement et tout ça. On avait même titré Roy Zelina. Voilà, Zelina semblait être dans la hype. On était au mois de mars. Et vous voyez comment dans le catch, tout va très très vite, puisque là, on est fin octobre. Et là, Zelina, elle se retrouve juste à faire du jogging pour Bianca Belair, quoi. Donc, c'est assez... C'est assez triste comment un personnage peut s'effondrer comme ça. Donc voilà, quoi, je lui mets mon flop, mais c'est plus par dépit qu'autre chose, quoi. Et la note, je vais quand même lui mettre. Alors, je reviens pas, papy, t'as mis un 3,5. Je vais chaud. Pas aller là. Ah ouais, t'es super chaud. Hein. Mais moi, ça manquait un peu, 4, 2 matchs de 2 minutes, tout ça. Moi, pour moi, c'est un petit peu. C'est vrai que même si Rollins, Murphy et le match tag team sont des matchs super, au final. on rame un peu quoi avec l'histoire de Shorty G. Bon, bah, il change de nom. Ok, génial. Bon, tu vois, ça, il y a tout un tas de trucs quand même, moi, qui je peux pas mettre un 3,5 à un show pareil. Donc, je vais plutôt être. Je vais lui donner la moyenne, un peu plus que la moyenne, mais je vais rester relativement sage sur ce coup-là. Et peut-être un peu moins dans les pronos, on verra. Et donc, je vais lui mettre un 2,75 à ce show. Allez, voilà. Alors, pour les pronos, comment on fait, mon papy? Comment tu veux faire? Est-ce que tu as le nom de tous ceux qui ont commis des pronostics dans le Discord de la chaîne Catch Up?
Eh bien oui, alors je vais le lire tout de suite. Nous avons quelqu'un de très important qui s'appelle Yerem, que vous connaissez tous, que les enfants adorent, que les femmes adorent, tout le monde adore. C'est Yerem, c'est le patron. Nous avons un deuxième participant qui est quelqu'un qui a changé de nom, je pense, récemment, mais qui s'appelle désormais Je Ousso. C'est un petit jeu avec Je Ousso, peut-être. On ne sait pas. C'est quelqu'un d'assez comique. Un troisième participant qui s'appelle Anne Tifeyane. Donc voilà. Un quatrième, Max Hardy. Un cinquième, Black. Une sixième, Johanna Bébélu. Et un septième, qui adore pronostiquer parce qu'il sait que je galérerai avec son nom, c'est Zeltexen. C'est que ça ferait.
Zeltexen. Voilà, la big up à tout cela, quoi. Déjà, voilà. Ils ont réussi. Après, c'est chaud, on ne peut pas prévenir tout le monde. Nous-mêmes, on s'organise sur les enregistrements un peu à l'arrache. Donc, du coup, on chope au passage un peu les pronos de ceux qui arrivent sur notre Discord à ce moment-là et qui voient qu'on fait une petite annonce. Alors, mon papy, il y a 5 matchs.
La carte était venue tard, en plus.
La carte, en plus, est venue tard. Finalement, il n'y a pas beaucoup de matchs annoncés. Au final, il n'y a que 5 matchs sur la carte. Et ces matchs, écoute, comment on fait? Je les annonce et puis tu nous balances les pronos. Alors,
on fait comme ça.
Alors, on commence avec le single match. Single match, Jeff Hardy versus Elias. Ton prono, papy.
Alors, mon prono, qui est aussi le prono de l'ensemble, si je ne dis pas de bêtises, des participants. C'est un prono musical, vu que c'est Elias qui revient en force. Il lance un album face à Jeff Hardy, qui est un vétéran, qui n'a absolument pas besoin de cette victoire-là. Donc moi, je le donne à Elias sans trop hésiter.
Ouais, pareil que Mireille, je le donne à Elias aussi. Là, je ne vois pas comment c'est possible que le chanteur catcher ne puisse pas... démolir Jeff Hardy pour son retour, surtout dans la hype dans laquelle il est. Comment ça a été vendu là avec son album? Il a eu droit à 2 chansons cette semaine en weekly. Donc non, là je peux pas croire que c'est possible. Je peux pas croire. Donc je vais donner Elias. Ensuite, deuxième match, Otis versus The Miz, contract holder, single match for the Money in the Bank contract.
Alors là, c'est bien plus partagé là, parce que nous avons 2 versus 2, 4. Alors, nous avons 4 personnes pour Miz et 3 personnes pour Otis. Donc, pour Otis, donc, ce sera Sexienne, Max Hardy et Anne Tifeyane. Et les autres, bien sûr, ont misé sur le Miz. Donc, du coup, 4 contre 3. Ouh là 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 là. Et ben, je comprends que ce soit partagé, car moi-même, j'hésite grandement. Parce que mon cœur, tout comme celui de Irem, qui a voté Miz pour te redonner de l'espoir, qui t'a fait une petite dédicace. Mon cœur en fait irait comme Irem pour arrêter tes souffrances, tonton, et redonner la palette à Miz, parce que je pense qu'ils pourront jamais s'en sortir avec Otis et une mallette. Par contre, Otis qui perd la mallette, ça peut ouvrir des opportunités. Ça peut être le mec après qui a SmackDown et puis je sais pas moi, les face du les Ousso ou n'importe qui vient le voir en disant mais t'es con quoi, putain, t'avais une opportunité de te débarrasser de Roman Reigns. Et tu te trouves loin de perdre la mallette. Donc, je pense que ça pourrait être sympa. Donc, je vais écouter mon cœur, car le cœur, c'est raison que la raison ignore. Et donc, je vais voter le Miz. Et toi, ton prono?
Eh ben moi, écoute, voilà, hein, comme l'a écrit donc le patron qui veut que redonner de l'espoir en l'être humain, bah, il a raison, cet homme. Et moi aussi, hein, je vais voter pour le Miz. Hein. Moi, j'espère que vraiment, on va passer à autre chose avec la mallette et que, au moins de novembre jusqu'à allez on va dire jusqu'à mars la mallette soit représentée fièrement et reprenne un petit peu d'aura grâce à un détenteur un peu plus chevronné et qui représente vraiment quelque chose de crédible et de dangereux. Et pas un, je ne reproche absolument pas à Otis le fait d'être un comedy wrestler, d'être un bon gros bagarreur bonhomme en grenouillère qui vient faire des segments marrons parfois avec des cuisses de dinde, avec des choses comme ça. Mais voilà, vous voyez, le simple fait de parler comme ça de ce qu'est son personnage réellement, bah, ça correspond pas au grand catcheur. Je suis désolé, compris cette mallette, quoi. Et voilà. Et il y a du, quand même du très, 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 très lourd sur cette mallette, quoi. Et vraiment, c'était, depuis le début, c'est quand même mon énorme déception. Je l'ai déjà dit, au regard de, du line-up qu'il y avait pour le match Money in the Bank 2020, il y aurait eu moyen d'avoir un beaucoup plus détenteur de mallette, tu vois, un peu plus croustillant, qui nous amène un peu plus de suspense, un peu plus de quoi faire trembler. Jamais, depuis que Otis a cette mallette, on a tremblé pour le titre de champion du monde, que ce soit à Raw comme à SmackDown. T'es pas d'accord ?
Non, mais il est inexistant, malheureusement. Et ça me fait pas plaisir pour lui, hein, parce que je pense qu'il doit aussi en souffrir d'être complètement sans intérêt, en fait. C'est triste à dire, mais c'est ça, quoi. Donc, son personnage n'est pas mort, comme tu le dis. Il a des qualités, quand même, même si tout le monde n'est pas fan, mais il a quand même des qualités. Il faut le reconstruire, c'est tout. Et là, ils ont, en plus, je pense que lui, ça lui a fait très, très mal le fait qu'il n'y ait pas de public. Hein, parce que Otis sans public, il perd 90% de l'intérêt du personnage, quoi.
Ouais, je suis assez d'accord avec ça. Bon, allez, numéro 3, Bayley, Sasha Banks, Hayley Nassel match, hein, pour le WWE. SmackDown Women's Championship. Papy.
Alors là, c'est partagé aussi, mais un petit peu moins. Parce qu'on a 5 personnes qui ont voté pour Sasha. Notamment Irem, qui pense que le Hell in a Cell, c'est pile poil sa stipulation. Et nous avons 2 personnes qui tentent un peu le coup de rester avec Bayley. Donc le fameux Jey Uso et Han Tifehan, qui sont les champions, pour voter pour la championne. C'est compliqué, je trouve, ce pay-per-view à voter. Je vais voter. Alors, si on avait été plus proche de Mania, j'aurais voté pour Bayley, parce que je pense que le Sasha Bayley, le jour où Bayley va perdre la ceinture et que Sasha va la récupérer, ça sera un gros payoff, un gros truc, un moment important. Mais du coup, en fait, comme le pay-per-view d'après, c'est Survivor Series, qui est pas vraiment un match, un pay-per-view qui est fait pour avoir un match féminin en match final, et qu'après celle-ci, ça ferait trop loin. Je pense que si Bayley doit perdre la ceinture, Sasha, ça peut être que maintenant, quitte à ce qu'après le récupère dans les prochains mois, j'en sais rien. Mais donc, du coup, je vais voter Sasha en misant sur le fait que ça permettra de poursuivre la rivalité entre eux deux. Tandis que si Bayley gagne, je pense que ça sera compliqué d'imaginer la suite, en fait. Voilà, j'arrive pas à imaginer la suite si Bayley gagne. Donc, Sasha.
Ok. Moi, je vais voter la championne conserve. Voilà. Donc, je pense que Sasha va encore galérer. Qu'ils n'ont pas de plan pour elle, ils attendent un peu. Il va y avoir un truc avec les Survivor Series, avec certaines têtes, Team Sasha, Team Bayley, je ne sais pas quoi. Pour l'instant, ils ont besoin de garder Bayley comme championne. Ils veulent lui faire péter tous les scores en termes de titres historiques et tout ça, le nombre de journées, de jours de règne et tout. Je ne sais pas pourquoi, j'ai l'impression. Voilà. Ils ont un projet avec Bayley, c'est leur projet. Et c'est comme ça, c'est Bayley. Donc moi, je vois Bayley conservé. Allez. Avant-dernier match, les deux derniers matchs, de toute façon, c'est 2 main events, hein, clairement, hein, de toute façon. Donc, c'est les 2 championnats du monde. Enfin, le championnat universel et puis le championnat du monde poids lourd. Voilà. Donc, d'un côté, on a Drew McIntyre versus Orton pour Raw.
Et oui, et un match qui mine de rien, et pas si. Je pensais que ça serait un 100% pour McIntyre, et pas tant que ça, parce qu'on a une fois de plus 5 personnes versus 2. Donc, 2 personnes qui ont voté pour Orton. Donc, Antifeuillan, qui en est triste, mais qui a voté pour Orton. Et Xel Taxian, Saxefren, qui a voté pour Orton aussi. Tandis que Irem, lui, a bien sûr voté pour McIntyre, parce qu'il veut voir un McIntyre versus Sheamus. J'aimerais bien savoir où en est Edge. Parce que j'imagine bien un jour Edge piquer la ceinture à Orton. Mais est-ce que Edge sera bon pour les prochains mois, ou est-ce qu'il lui faut encore un an? J'en sais rien. Donc du coup, je vais voter Orton, histoire d'avoir quand même une grosse surprise dans le pay-per-view. Je vais voter Orton en imaginant qu'après, il va se taper un face quelconque, je ne sais pas moi, Keith Lee par exemple. Et après, Edge revient au Rumble pour choper Orton à Mania. Voilà, c'est mon booking, fantasy booking. Orton qui prend la ceinture pour viser très loin avec Edge.
Ok, bah moi je crois que je vais plutôt être dans le clan, de Jey Uso, de Black et compagnie, mais de Bébélu, je pense que je vais être McIntyre team. Ouais. Non, moi je reste avec le champion, je crois qu'il est parti pour nous faire un méga règne là, lui pareil, je parlais de celui de Bayley, alors je suis beaucoup plus enthousiasmé, vous le savez de toute façon si vous venez régulièrement sur cette antenne. Beaucoup plus enthousiasmé par le titre de Drew McIntyre que celui de Bayley, mais je sais pas pourquoi, je le sens pas faire pour l'instant. Ça serait tellement pas mérité pour, enfin, à mes yeux en tant que fan, voilà, ça serait tellement pas mérité que pour moi c'est le champion de l'année. Il doit garder le titre toute l'année, voilà, depuis qu'il l'a pris à WrestleMania à Lesnar. Voilà, pour moi il doit aller au bout de cette année cauchemardesque qu'est l'année 2020 pour tout le monde, dans tous les secteurs, quel que soit, voilà, tout le monde a souffert de ce Corona Mania. Alors gardons un beau champion comme Drew, et dans une grosse bagarre, voilà, j'attends une grosse bagarre bien sanglante. Je me rappelle d'un Orton dans la cage face à Cena en 2009, où ils avaient finalement pas tellement utilisé tous les deux tant la stipulation d'elle-même avec la cellule, voilà, dans laquelle on se balance et tout ça. Ils l'avaient finalement fait peu. C'était un match qui était resté quand même beaucoup dans le ring, mais ils avaient raconté un vrai truc avec à l'époque un Orton complètement rasé, avec une tête de fou qui se tient les tempes et tout, comme si, voilà, en train de devenir fou, si tu veux. Voilà, j'espère un beau gros combat. Drew McIntyre, je crois qu'il y a plein de monde, il a plein de monde au cul de toute façon dorénavant. Il y a plein de gens qui lui veulent du mal, et c'est tant mieux pour la ceinture. Ça met du piment dans cette ceinture. Donc, allez, le bel homme, il garde le titre. Je donne Drew McIntyre, et puis de l'autre côté, Reigns Uso. Bah écoute, moi je vais pas m'étendre là-dessus. J'en ai parlé la semaine dernière, j'en ai parlé tout à l'heure. Moi je te le dis direct, je donne le Reigns, le Big Dog. Voilà, le chef de tribu. Pour moi, il n'y a pas photo, c'est lui qui va gagner.
Oui, non, mais alors, je vais te dire que Yerem est d'accord avec toi, parce qu'en plus, Reigns est fort, que Jey Uso est d'accord avec toi, que Antifeon est d'accord avec toi, que Max Hardy est d'accord avec toi, que Black est d'accord avec toi, que Bébé Lou est d'accord avec toi, que Xel Texen est d'accord avec toi, et que donc Pac est d'accord avec toi.
Ah ouais,
clairement.
On est ensemble.
Mais oui, et puis en plus, avec la nouvelle stipulation rajoutée par Roman, ça a beaucoup plus d'intérêt d'avoir Roman Reigns qui s'impose, et du coup de voir les Uso peut-être s'entre-déchirer entre suivre le leader ou pas, peut-être les frères qui vont du coup se disputer, parce que l'un voudra défendre sa famille et pas l'autre, pas défendre sa famille, mais en tout cas pas suivre Roman. Bref, ça ouvre tellement d'ouverture, la victoire de Roman Reigns, ça ouvre tellement d'ouverture, c'est pas français, tellement de perspectives, voilà, une victoire de Roman Reigns que je vote avec envie pour une victoire du gros chien.
Ouais, après c'est unanime, le peuple de Ketchup est unanime, les discordeurs de Ketchup sont unanimes, personne n'envisage une seule seconde une défaite de Roman Reigns dans une telle configuration.
Non, mais bon, après Dieu aura fait quand même du bon boulot, mais c'est pas son moment.
De toute façon, c'est du no DQ, hein, dans la cellule de l'enfer. C'est du no DQ de toute manière. Donc, il va se passer des choses horribles dans ce match. Ça va être horrible. De toute façon, on va avoir 2-3 matchs là. Même si on n'a que 5 matchs, ça se trouve, ils vont être longs. Et tenez-vous bien. Peut-être ne regardez pas ça avec vos enfants, peut-être.
Ah, peut-être, mais peut-être qu'ils font justement. Alors, j'ai un petit espoir qu'ils fassent ça en format takeover, c'est-à-dire que 5 matchs, mais 5 longs matchs. Tu as déjà 3 qui sont dans la cage, donc on peut espérer que ces 3 matchs-là fassent plus de 20 minutes chacun. Et puis bah ça te remplit vite ta carte en fait s'ils arrivent à faire des longs matchs. Donc bon, je vote pour ça en tout cas. Surtout qu'ils ne foutent pas des Dana Brooke versus Asuka entre les deux main events, par exemple, ça foutra un peu la zone.
Ouais, non mais pourquoi pas, effectivement, on peut garder sur ces 5 matchs là sur la carte et puis mettre un match en pré-show, voilà, pourquoi pas, ça peut être.
Un petit Lana Asuka versus Shayna Baszler et Nia Jax en pré-show, par exemple.
Un match tag team, pourquoi pas un match tag team, par exemple, on pourrait se balancer là-dessus, quoi. Ok, et là où il faut vous balancer pour nous trouver, hein, peuple de catch-up, il faut vous balancer sur tous les bons réseaux sociaux, mais qui nous connaissent, en l'occurrence Twitter, Facebook et Instagram. Vous pouvez nous trouver aussi sur le site officiel catchup.lepodcast.fr. Vous allez bien évidemment sur YouTube, vous pouvez actionner la cloche, vous pouvez vous abonner, vous pouvez laisser des commentaires, vous pouvez nous laisser des pouces. Voilà, vous pouvez bien évidemment passer par toutes les bonnes plateformes de podcast, en l'occurrence Apple Podcast, PodCloud, Spotify, Deezer et Google Podcast. Mon bon papy, merci à toi d'être venu avec moi reviewer ce SmackDown du 23 octobre 2020 avec ses pronos de Hell in a Cell.
Bah, merci tonton de m'avoir invité dans ta cage. Ça fait toujours plaisir de m'inviter en enfer.
Voilà, ainsi s'achève, cette édition, ce SmackDown, c'est ce Go Home Show. Voilà, donc bah, écoutez, on vous fait plein de bisous. On vous souhaite un bon play, bon Hell in a Cell du coup. Quoi. On vous fait des cordes à linge plein la face. On vous souhaite une bonne semaine, pleine de catch. Salut papy.
Salut tonton et salut à tous.
Salut papa de catcher. Fait des variations,
Ouais, t'as EP de manière aiguë sur la fin.
Ouais, t'as vu, hein, j'ai la gorge qui a ripé.
C'est glissé, chef.